Ligne droite.
Et dans Ligne droite, nous recevons avec plaisir Pascal Pointu, dont les connexions Internet ont été rétablies. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Richard.
Alors ça y est, ils ont le poteau qui avait été sauvagement abattu par un forestier malotru a été remis en place ?
Pas tout à fait. Le poteau est toujours coupé en deux et ils ont fait le raccordement à même le champ.
Ah, voilà, ça ressemble plus à la débrouillardise qu'à une véritable intervention, mais ça y est, le hameau dont vous faites partie est à nouveau raccordé.
Voilà. Et puis comme j'étais le seul titulaire de la ligne, donc si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'obligation de résultat pour eux. Hein.
Bon, mais nous sommes contents de vous retrouver et de vous voir. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors, je vais vous parler des crises qu'il y a dans le monde agricole aujourd'hui, notamment des crises multiples, la crise du cognac, la crise de la pomme de terre, la crise du chou-fleur et la crise du poireau. Donc, on se retrouve avec des crises qui impactent le monde professionnel agricole qui a déjà fort à faire au niveau de l'élevage, avec les contrats de libre-échange. Mais vous avez, par exemple, la crise du cognac qui est une crise gravissime pour tout un bassin d'emploi, pour des viticulteurs qui, puisque le cognac est fait à partir de cépages de vin blanc spécifiques, et ces viticulteurs ne sont plus payés depuis plusieurs mois, et les grandes maisons de cognac françaises sont au bord du précipice. Vous avez la marque IR, une marque emblématique de Jarnac, une grande marque du luxe du cognac, qui a licencié 35% de ses effectifs tout dernièrement, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et tout ça parce que la Chine, alors c'est là que nous voyons que la France ne pèse plus dans le monde comme elle a eu pesé avec le général de Gaulle. Elle ne pèse plus puisque les Chinois, qui sont très consommateurs de cognac, ont mis des taxes de 27 à 35% par bouteille suite à la taxation des véhicules électriques chinois. Donc, si vous voulez, on a fait de la politique en poussant juste le petit caillou devant sa chaussure sans se rendre compte qu'il fallait prévoir tout ceci et que c'était bien évidemment vu d'ensemble qu'on ne pouvait pas résister à l'invasion des véhicules électriques chinois qui sont maintenant légion. Et donc, on va sacrifier là aussi les spiritueux qui sauvaient la balance économique agricole et qui, malgré qu'elle soit déficitaire, là va l'être encore plus l'année prochaine, puisque les spiritueux sauvaient notre balance. Le cognac est en grand danger également aux États-Unis, là, avec les taxes aussi, mais surtout par un changement de consommation des Américains. Il faut savoir, par exemple, que le cognac, historiquement, la communauté afro-américaine en est friande, au même titre que les communautés hispaniques. Et on voit bien que la baisse de consommation est liée aussi à un changement de consommation chez les Américains. Maintenant, je vais vous parler de la crise de la pomme de terre qui, là aussi, est gravissime pour beaucoup d'exploitants, notamment dans les Hauts-de-France, où le climat de l'année dernière a favorisé une récolte exponentielle et on s'est retrouvé avec des stocks à ne plus quoi savoir en faire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les 100 kilos de pommes de terre se négocient entre 0,50 centimes d'euros à 4 euros selon les variétés. Donc, si vous voulez, c'est absolument pas le prix, ne serait-ce du travail des paysans. Et donc, ils sont obligés de stocker une production qu'ils donnent à l'heure actuelle parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Les silos sont pleins, les hangars sont pleins de pommes de terre et on n'arrive pas à exporter parce que là aussi, les Américains ont mis 15% de taxes. Sachant que les Américains sont consommateurs de 22 kilos de pommes de terre par an par habitant, le Canada, qui est un très gros consommateur aux alentours de 54 kilos par an et par habitant, et ben ces gens-là, avec les taxes, et ben la pomme de terre française et même la pomme de terre européenne, il faut bien le dire, hein, puisque là aussi, on se retrouve avec une surproduction européenne, est boudé par les Américains et on préfère maintenant, les Américains achètent à la Chine, qui est le premier producteur mondial de pommes de terre, et on achète à la Chine ou à la Turquie ou à l'Inde la pomme de terre qui est bien moins chère que la pomme de terre européenne. Donc on se retrouve là aussi avec le chou-fleur pour, là c'est différent, la surproduction est la même que pour la pomme de terre, mais sauf que les Français boudent ce légume. Et auparavant, nous revendions pendant l'hiver à l'Allemagne notre production, puisque l'Allemagne, étant plus au nord que la France, n'avait plus de production de chou-fleur à partir du mois de novembre. Et donc, on vendait. Mais là, avec le réchauffement climatique, les Allemands ont pu vendre et produire ce qu'il leur fallait eux-mêmes. Les Anglais, extrêmement friands pour les plats de fin d'année de chou-fleur, eux aussi ont pu produire jusqu'à ne plus en finir. Et nous avons sur le marché de Rungis le chou-fleur polonais qui arrive et qui, bien entendu, est encore moins cher que le chou-fleur français. Quand le chou-fleur français est à 70 centimes, le polonais était aux alentours de 65 centimes. Donc on se retrouve, comme pour le poireau là aussi, on se retrouve dans des crises multiples pour le monde agricole, des crises qui impactent tout un monde agricole. Et je ne sais pas, pour l'avenir, comment sera pour la pomme de terre? Il y a une petite lueur d'espoir puisque deux méga-usines de frites surgelées doivent ouvrir dans le nord de la France et qui permettraient de d'écouler 1500 tonnes environ de pommes de terre par jour, ce qui est beaucoup. Mais pour que tout ceci rentre dans l'ordre, il faut attendre les années 2030 et malheureusement, nos agriculteurs n'auront pas la trésorerie pour tenir jusque-là. Donc, on va voir comment que l'État va réagir par rapport à ces crises multiples et différentes. On va voir si la France est à l'égal d'autres grands pays, sachant aussi que le chef de pôle auprès du Premier ministre chargé de l'agriculture, de la chasse et de la pêche vient d'être démis de ses fonctions puisqu'il a été en overdose lors d'une soirée festive Chemsex, et que ce monsieur-là qui devait défendre l'agriculture auprès du Premier ministre a rien trouvé de mieux que de se mettre pas mal de choses dans le pif, et au résultat, on se retrouve avec plus de chef de pôle du service agriculture pour le Premier ministre, et bien évidemment, ça aussi handicape la politique générale du gouvernement.
La chronique n'est pas finie. Merci pour ces statistiques si précises. Dans cette espèce d'invasion du chou-fleur polonais, il y a aussi, comme d'habitude, la manière dont l'Union européenne favorise un certain nombre de pays. Et, si je ne m'abuse, l'année dernière, c'était la Moldavie qui avait été particulièrement soutenue par l'Union européenne pour des raisons qui n'appartiennent qu'à Ursula von der Leyen. La Moldavie était un pays en péril démocratique, vraisemblablement, et donc il fallait absolument que la Moldavie puisse exporter ses fruits et légumes sans aucune barrière douanière dans l'Union européenne. Ça a été mis en place, et évidemment, ce sont les producteurs français qui en ont fait les frais.
Oui, et puis, outre cela, regardez ce que Mme von der Leyen a déroulé comme tapis vert à M. Zelensky pour l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui ne paye pas des droits de douane pour pouvoir exporter ses poulets, ses œufs, son blé, qui va rentrer en compétition frontalement avec le blé français. Et là, le blé français aura de grandes difficultés à résister, eu égard au prix de production ukrainien, sachant que les grandes fermes ukrainiennes appartiennent aux États-Unis, faut le dire aussi. Et Mme von der Leyen, de toute façon, le but de Mme von der Leyen, je vais vous le dire, cher Richard, c'est de nuire à la France. C'est pas de porter haut et fort les couleurs de l'Union européenne, c'est de nuire à la France. Madame von der Leyen était ministre allemande. D'ailleurs, elle a été remerciée parce qu'elle était strictement incompétente. On l'a placée là. Et Monsieur Macron a une responsabilité puisqu'il a appelé à voter pour Madame von der Leyen, qui fait partie du PPE. Et ce PPE, par exemple, des cadres français, des Républicains, ont voté pour la reconduction de Madame von der Leyen. Et je ne comprends pas aujourd'hui que l'on laisse faire cela, sachant qu'elle a une politique agricole qui est dictée par les Verts et dictée par les Allemands. Et donc, au final, la France est toujours ressortie, battue de ce système-là. et on est écrasé par Madame von der Leyen, qui fait des accords un peu avec tout le monde, sans vraiment concerter les pays membres et sans vraiment prendre en compte les spécificités agricoles de notre pays. Et donc, on se retrouve en compétition. Vous allez voir, on va signer des contrats de libre-échange avec l'Inde, sachant qu'avec l'Inde, c'est le premier producteur de pommes de terre avec la Chine au monde. Et donc, on va avoir là aussi une compétition qui ne sera pas tenable pour nos producteurs de pommes de terre français. Et donc, on va se retrouver, encore une fois, avec d'autres crises à gérer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Madame von der Leyen est là pour détruire la France. Elle n'est pas là pour aider et soutenir l'agriculture française.
C'est le moment, effectivement, de rappeler que Madame von der Leyen est allemande et que, bizarrement, les Allemands ont l'air de considérer que l'Europe est leur terrain de jeu. La France en fait les frais depuis le 19e, et chaque fois qu'un chancelier allemand nous explique qu'on devrait mieux gérer la France, on a un peu des frissons dans le dos, parce que c'est évidemment ce que le chancelier Merz a expliqué à la France en expliquant qu'il fallait moins de dépenses sociales et plus d'investissements militaires. Voilà. Donc quand l'Allemagne se réarme, sous prétexte de défendre l'Europe, on sait à peu près à
en
quoi
achetant
ça...
américain.
Voilà, en achetant américain, évidemment, on sait à quoi ça va mener. Merci beaucoup, Pascal Pointu, pour cette défense du monde paysan, et je vous dis bien sûr à vendredi prochain pour une nouvelle chronique, sinon pleine d'espoir, en tout cas pleine de vérité.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 9h10, 8h48 pour être très très précis. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Dans 10 minutes, il y aura l'analyse avec Rémi Tell, où nous parlerons justement de la manière dont les Français consomment, dont on a transformé les Français en consommateurs et du peu de bonheur que cela leur apporte. Mais tout de suite, la chronique de Sophie Mageran qui nous emmène aux sources de la civilisation européenne avec l'Odyssée.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Sophie Mageran.
Bonjour Richard.
On va recommencer sur cette magnifique série aux sources de notre civilisation grecque, latine et chrétienne. Après la guerre de Troie, il faut que les combattants rentrent chez eux. Et parmi tous ces combattants, il y en a un qui est fameux entre tous.
Et oui, c'est le fameux Ulysse, bien sûr. Ulysse, dont le nom est formé à partir de Odysseus, qui signifie l'Odyssée, ou qui est traduit aussi par Ulysse. Le fameux Ulysse, et qui va avoir bien de la peine à rentrer chez lui. Le poème est très très bien construit de l'Odyssée. J'invite tous les auditeurs vraiment à relire l'Odyssée, la traduction de Victor Bérard notamment. C'est absolument remarquable parce que on ne suit pas les aventures d'Ulysse les unes après les autres. Il y en a eu beaucoup, mais on suit Ulysse qui finalement échoue. Il va avoir bien bien du mal à rentrer dans sa patrie d'Ithaque. Il va échouer chez le roi Alcinoos. Il va être découvert par la très jolie jeune fille Nausicaa au bras blanc. Vous savez qu'il y a des attributs comme ça dans les poèmes
épithètes homériques, voilà.
Dans les poèmes d'Homère. Et ce personnage qui manifestement a beaucoup souffert, qui a une tête hirsute, qui n'a pas été rasé depuis très longtemps, va être emmené au palais d'Alcinoos. On va déjà lui proposer un bain. Ensuite, on va lui proposer un bon dîner, un bon banquet. Il y a des banquets absolument fabuleux dans ces poèmes d'Homère. Et ensuite, on lui posera la question, mais étranger, comment t'appelles-tu et d'où viens-tu ? Il y a vraiment cette manière d'accueillir l'étranger. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'Ulysse va raconter toutes ses vicissitudes, tous ses problèmes, tous ses naufrages et toutes ses aventures au palais et à la table d'Alcinoos. Et donc, c'est ainsi qu'on connaît toutes ces pérégrinations. Et elles sont nombreuses, elles sont difficiles. C'est vrai qu'il y a deux choses. Déjà, il y a les éléments qui se déchaînent. Il y a par exemple, tous les vents qui vont lâchés, vous vous souvenez, qui étaient contenus dans des outres. Et la sorcière Circé avait dit « Surtout, ne les ouvrez pas !» Et puis, évidemment, un marin va ouvrir une outre et une tempête absolument extraordinaire va se déchaîner. On connaît les vents qui sont précisément décrits et qui existent toujours d'ailleurs en Méditerranée, ils n'ont pas changé. Vous avez également des naufrages, on tombe de Charybde dans Scylla, entre la Sicile et la Calabre actuelle. Et encore aujourd'hui, vous avez en Calabre, en sud de l'Italie, eh bien une localité qui s'appelle Scylla, hein, et qui fait directement référence à ce monstre marin. Et c'est vrai que le détroit de Messine est extrêmement dangereux. Vous avez des tourbillons encore aujourd'hui, parce qu'il y a une faille là très profonde, et c'est extrêmement dangereux encore aujourd'hui eh bien, de franchir ce détroit. Mais ce qui est intéressant aussi, eh bien, c'est que notre ami Ulysse est tenté de rester dans les bras de la belle Calypso, hein, Calypso qui lui propose d'être éternellement beau, éternellement jeune et éternellement amoureux d'Ulysse. Et Ulysse, même si peut-être la tentation est forte, n'a qu'une idée en tête, c'est de rentrer chez lui, hein. Certes, chez Calypso, la plage est blanche, le sable est fin, les cocotiers sont là, certainement, vous savez, c'est vraiment l'image en cet hiver, on aimerait bien voir un peu ces images dignes des Bahamas. Et en tout cas, Ulysse va décider de repartir, de quitter Calypso, parce que son devoir absolu, c'est de rentrer chez lui, de retrouver sa famille à Ithaque, la belle Pénélope et son fils Télémaque, et de remettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'il se doute bien qu'après 20 ans d'absence,
le royaume doit être dans un triste état.
Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et c'est pour cela qu'il déclinera aussi l'offre que lui fera Alcinoos d'épouser Nausicaa, sa fille, parce que le devoir, eh bien, c'est de rentrer chez soi. Et c'est ça tout le thème central, finalement, de ce poème de l'Odyssée, c'est le retour à la patrie, hein. C'est l'amour de la patrie et le retour à la patrie. On est attaché à une terre, on est attaché à sa terre, à sa famille, et c'est ce qui anime véritablement Ulysse et puis tous les hommes de l'époque. Et depuis, son devoir, c'est de retourner chez soi. Et donc, il va s'embarquer tout seul, parce qu'il a perdu tous ses compagnons. Il va quitter Nausicaa au bras blanc, et son père, et ce palais, et cette île, et il va arriver chez lui. Et le contraste est saisissant, parce qu'on quitte une île grecque très lumineuse, très belle, et puis on arrive dans la pénombre et dans la grisaille d'Ithaque, hein, il ne se fait pas reconnaître. Les Athéna qui le protège, qui le guide un peu, lui dit surtout ne te fais pas reconnaître parce que ton royaume est dans un triste état. Et donc il va arriver incognito, seul son chien. C'est très beau, le chien reconnaît le maître après 20 ans, bon, c'est très 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 beau. Et puis également la nourrice qui va lui donner un bain, hein, qui était sa nourrice, qui va lui préparer un bain, et qui voit une tache de naissance dans le dos très spécifique. Et là, elle a un sursaut, et Ulysse lui dit « Ne dis rien, je suis là, mais ne me fais pas reconnaître. » Et à l'occasion bien d'un banquet, hein, il y a toujours des banquets, on l'a dit l'autre jour, eh bien... finalement, les prétendants vont être défiés.
Hein, les prétendants de Pénélope.
Les prétendants de Pénélope, qui avaient bien du mal à les tenir éloignés. Hein, on se souvient tous qu'elle défaisait l'ouvrage qu'elle s'échinait
Puisqu'elle avait promis que quand sa tapisserie serait finie, elle en épouserait un. Et donc, chaque nuit, elle défaisait l'ouvrage
elle
de la même
l'ouvrage, journée. Mais elle venait d'être confondue. Donc, les choses s'accéléraient. Et donc, lors de ce banquet, eh bien, il y a le fameux test, hein, qui va être organisé, eh bien, de tirer à l'arc et de passer à travers des haches, hein, qui étaient posées les unes à la suite des autres, et seul Ulysse réussit cela. Ulysse qui va à ce moment-là eh bien, être déclaré vainqueur, mais surtout qui va pouvoir remettre de l'ordre directement, hein, et tuer tous les prétendants.
Hein. Ouais, c'est une manière de remettre de l'ordre.
C'est très radical et c'est très efficace. Hein. Et l'ordre, vous savez, en grec, ça se dit cosmos, hein, qui est cosmos qui signifie à la fois ordre, beauté et universalité. Et c'est vrai que eh bien, ce qui est ordonné est beau et universel, ce qui est beau est ordonné universel, et ce qui est universel est beau et ordonné. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est chez soi, eh bien, on a remis de l'ordre. Il retrouve sa femme, Pénélope, qui est très surprise d'apprendre qu'Ulysse est là. Elle va avoir cette feinte en lui disant « Mais attends, très bien, elle n'est pas très sûre que ce soit lui. Il a changé quand même en 20 ans. Et je vais aller arranger notre chambre et changer le lit de place. » Et il lui dit « Mais comment ?» Comment ? Le lit n'a pas changé. Le lit, tu sais très bien, Pénélope, que j'ai construit notre chambre et le palais autour du lit que nous avons creusé eh bien, dans les racines et dans la base d'un figuier. Hein. Et là, elle reconnaît Ulysse enfin rentré chez lui.
Merci Sophie Magent.
Merci.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, c'est avec Rémy Tell. Bonjour Rémy Tell.
Bonjour Richard, bonjour à tous. Et désolé pour les petits travaux en arrière-fond, c'était pas prévu et ça arrive ce matin.
Mais, ouais, mais pour le moment, on n'entend rien, sinon votre voix. Et il y a quelques semaines, enfin à peine deux semaines, les Ponts Neufs ont sorti une étude où ils parlaient du pouvoir de vivre à la place du pouvoir d'achat, en montrant que ce qui angoissait les Français, c'était en fait la manière dont aujourd'hui la société ne leur permettait pas de vraiment vivre. Voilà, avec des phrases comme « on fait tout ce qu'il faut et pourtant on ne s'en sort pas ». Les gens étaient surpris, les Français étaient surpris de se dire « on est rentré dans une ère où en fait le travail ne paie plus, le travail ne permet pas d'améliorer sa condition ». Et ils ont le sentiment, qui est juste, qu'ils vont léguer à leurs enfants une position moins confortable que la leur, même si peu confortable soit-elle déjà. Et ça faisait partie d'une angoisse existentielle par rapport à ce que la démocratie, la République est censée leur apporter. Et on sentait que cette angoisse était double. Il y avait d'une part le sentiment de cette dépossession, de ce déclassement, mais qui était assez peu, analysé par les Français, et d'autre part, évidemment, le sentiment de ne pas pouvoir être de vrais consommateurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, maintenant que la démocratie et la République ont réussi à éliminer le patriotisme comme étant un récit national qui permet de nourrir tout le monde, les petits comme les puissants, les humbles comme les orgueilleux, et donc on a supprimé en fait cette fierté nationale qui était la richesse en fait, la richesse du peuple, la richesse des pauvres. On a aussi supprimé les grands récits religieux, et donc il ne reste, et c'était ce que disait Jérôme Fourquet dans le Figaro il y a quelques années, on a remplacé en fait tous les grands mythes par un seul mythe, celui de la consommation. Et donc aujourd'hui, pour être citoyen, on est véritablement citoyen qu'à condition d'être consommateur. La France aujourd'hui ne permet plus aux gens d'être consommateurs. Ils sont dépossédés de tout et même dépossédés de ça.
Oui, Richard, et votre interpellation sur le sujet est venue comme un moment providentiel, figurez-vous, puisque c'est la rencontre aussi d'une situation personnelle. Et je réfléchissais à votre demande en me disant que nous étions au désert en ce début de carême. Et croyez bien que je le médite avec sérieux, puisque malgré six années d'études et de bien belles expériences professionnelles, je m'apprête à candidater au RSA, et ainsi peinent, Richard, les pauvres gens au milieu du sable et des pierres, le sable de nos illusions perdues, les pierres lestant tant d'aspects de nos vies. Je ne suis évidemment pas un prêtre initié au mystère de carême, mais comme nos auditeurs, acteurs et spectateurs d'un monde en souffrance dont, étrangement, la traversée du désert serait à la fois l'antithèse et le parfait symbole. L'antithèse, car sur le devant de la scène, c'est la profusion. À l'image de la scène, c'est E-N-E blasphématoire, joué devant la terre entière, en ouverture des JO, vous vous souvenez sans doute. Scandaleuse, elle disait tout de même quelque chose de très vrai sur la contrefaçon de notre temps, pomme en toque, maquillage criard, luxe à ne plus savoir qu'en faire, ou si peut-être des orgies sanglantes, le désert comme antithèse, donc Richard, mais aussi comme symbole d'aujourd'hui, puisqu'en coulisses, les acteurs, vous l'avez dit, sont nus, ils ignoraient jouer un rôle et se pensaient vêtus de nobles habits, mais l'ère du Covid, de l'inflation, de la furie guerrière, de la mort sur ordonnance des dossiers Epstein leur ont révélé l'atroce vérité de la pièce, plongeant les uns dans l'abîme, les autres à crier leur colère depuis les faubourgs miteux. Au fond, que reste-t-il à ces classes populaires? A priori, pas grand-chose. Politiquement, c'est un peu le désert façon ruine de Palmyre. La sociologie a pris toute la place, en témoignent les cathos bourgeois macronisés, ou la France périphérique derrière le Rassemblement national, vous citiez Jérôme Fourquet. Sur le plan économique, on se situerait plus dans le désert de Sibérie, puisque le niveau de vie dans l'Hexagone, d'ici 2030, nous apprend une étude récente, une autre étude, pourrait être inférieure à celui de la Pologne. Culturellement, enfin, ce serait le désert du Liban, du sable à la poudre, celle par qui la coexistence des identités vire au cauchemar des nations. Pour sûr, oui, Richard, nous paierons jusqu'au dernier centime. Longue, si longue est l'expiation des honnêtes gens. Je finirai bien sur une note encourageante, mais ce serait encore abondé dans la logique du mensonge. Alors, j'ai vu que les sites de Paris misaient sur un retour plus probable du Christ cette année que sur la victoire en 2028 de Kamala Harris à la Maison-Blanche. Et c'est au fond la seule et vraie chance, la plus grande chance que nous offre le désert, tourner nos regards vers le ciel.
Alors, merci Rémy Tell et merci la franchise avec laquelle vous évoquez votre propre cas. Quand on parlait de dépossession, c'était évidemment un concept que j'ai emprunté à Renaud Camus, qui, bien sûr, est connu pour son histoire de grand remplacement et de grand remplacisme, mais ce grand remplacement n'est que le symptôme, l'agent de cette dépossession. Repartons sur justement ce qui peut faire la richesse intérieure, la richesse spirituelle. Les Français, avant, avaient une langue et on se souvient de la manière dont nos parents et nos grands-parents nous parlaient. On voit fleurir des livres ou sur les réseaux sociaux ou dans les librairies où on nous explique, preuve à l'appui, à quel point les gens qui avaient leur certificat d'études parlaient et écrivaient un meilleur français que ceux d'aujourd'hui, avec effectivement des exemples d'une richesse de vocabulaire, d'une écriture impeccable, d'une grammaire et d'une syntaxe sans faute. Il y avait cette langue, il y avait cette tradition, il y avait la manière dont les fêtes villageoises et même les fêtes de quartier dans les villes étaient, comment dire, l'expression d'un passé commun, d'un vivre ensemble qui n'était pas une injonction étatique à accueillir la différence et à s'effacer soi-même, mais au contraire à valoriser ce que chaque ville était capable et chaque campagne était capable de produire avec, on en parlait il y a quelques années par exemple, au lieu d'avoir Halloween propagé par Auchan et les centres Leclerc de Dunkerque jusqu'à Marseille, il y avait dans tel ou tel village la procession des renards, parce que c'était à ce moment-là de l'année la coutume locale. Et c'est une véritable dépossession, et là aussi c'est quelque chose de très concerté, c'est-à-dire l'État s'acharne à vouloir balayer en fait tout ce petit patrimoine, et par ailleurs la gauche est acharnée contre ces fêtes populaires et aussi tout ce sens de la tradition.
On pourrait peut-être parler d'une forme de piège du consommateur. Dans cette époque de capitalisme de connivence où l'État se mêle au marché pour abrutir les gens, et vous savez Richard que nous sommes ma génération et la première génération depuis bien des siècles à posséder un niveau de QI qui est inférieur au QI de la génération qui la précède. Le marché n'a pas besoin de gens qui réfléchissent, il a besoin de gens qui consomment. Mais en consommant, en fait, ces gens se rendent substituables. Et ce n'est pas de leur faute à eux, on en est tous là. Et c'est la fameuse obsolescence de l'homme dont parle aussi Gunther Anders, ou d'une forme de grand remplacement par les machines et par cette hyper-concentration des profits du fait des avancées technologiques. Et donc, en fait, on se retrouve lésés dans un deuxième temps. Et toutes les solidarités et ce qui faisait nos forces effectivement au niveau local, que ce soit d'un point de vue relationnel, mais même d'un point de vue culturel, entre-temps, a été détruit par le marché. Et donc, au final, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, pas grand-chose, parce que ce qui faisait la sympathie et le caractère typique de nos villes, de nos villages, a disparu. Vous voyez, hier, j'étais dans une réunion publique à Castres, et lors de cette réunion publique, le candidat donnait les chiffres de la délinquance. C'était absolument faramineux. On a eu depuis 2020 des hausses de 91% des agressions sexuelles, de 200% de la consommation de stupéfiants dans une ville qui était jusqu'ici assez protégée. Et donc, tout ce cadre de vie-là a été complètement détruit par l'atomisation du capitalisme néolibéral. Mais il ne permet même plus de remplir sa promesse initiale, à savoir celle au moins de pouvoir jouir de la consommation et par exemple du fait de devenir propriétaire, puisque c'est un peu le symbole de l'accession des classes populaires, des classes laborieuses en tout cas, à une forme de stabilité financière.
Cette stabilité financière était effectivement le principe de base de la vie contemporaine, surtout depuis les 30 Glorieuses. Voilà, il fallait avoir une position financière qui permet non seulement de consommer, mais surtout de s'endetter. Et donc, c'est la consommation à crédit qui est devenue le mode de vie normal. Avant, demander un crédit, c'était quasiment avouer qu'on était ou pauvre ou en faillite, et non pas du tout. Maintenant, il était normal d'acheter sa maison à crédit, d'acheter ensuite ses meubles à crédit, d'acheter ses vacances à crédit, et même on en est rendu à des microcrédits pour acheter tout et n'importe quoi, avec même les courses au supermarché. On vous propose des solutions de paiement, comme on dit aujourd'hui, pour faire en sorte que le caddie ne soit pas payé en un seul coup. On a remplacé, en fait, une certaine autonomie des gens. J'entends, je ne voudrais pas idéaliser ce qui se passait au 19e, au 18e, au 17e, etc., où il y avait une noire pauvreté, mais il n'y avait pas le spectacle non plus d'une richesse absolument insolente et désordonnée, et les gens, somme toute, réussissaient à partager à l'intérieur de solidarité familiale, de solidarité professionnelle, de solidarité villageoise, le surplus des uns avec le manque des autres. Là, cette atomisation conduit en fait tout un chacun à être seul responsable en fait de son état financier, au point d'ailleurs, et vous me pardonnerez tous ces développements que je jette comme autant de pistes, au point de considérer qu'il y a une inutilité sociale quand on n'est plus capable de consommer, il y a une inutilité sociale quand on n'est plus capable de financer, et donc certaines personnes en arrivent à la juste conclusion qu'ils ne peuvent plus vivre puisqu'ils ne sont pas capables d'être véritablement insérés dans ce tissu marchand.
Dans ce que vous décrivez, il y a une spécificité française qui est celle du modèle de répartition des richesses, même si c'est impropre, mais plutôt de la répartition sociale des richesses. Et Bernard Morin nous permet d'y réfléchir en expliquant que le fait de croire que son voisin perçoit une allocation, en fait, vous retient d'exercer votre générosité ou votre charité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais la plus basique et la plus spontanée. Or, en fait, ces allocations, non seulement elles ne permettent pas de vivre, mais en plus, elles ne remplaceront jamais la chaleur d'un contact humain. Et donc, in fine, on est double perdant, tant sur le plan, effectivement, strictement financier, parce que dans les coups durs, il n'y a plus personne, mais aussi sur le plan culturel, au sens large, sur le plan presque anthropologique, avec cet isolement qui va croissant. Peut-être qu'il y a eu une phase du capitalisme qui permettait encore de contrecarrer un peu ces effets-là. Et sans doute la bascule, c'est 2008, la crise de 2008. Vous vous rappelez, la crise de 2008, on propose des crédits immobiliers pour consoler l'Amérique du 11 septembre. On propose des crédits immobiliers à des gens qui sont non solvables. Et en fait, on va diluer le risque du défaut de paiement en hypothéquant ces crédits sur le marché immobilier qui va baisser et en diluant le risque à travers des titres bancaires. Et avec la crise de 2008, qui en réalité ne concernait de mémoire que 8% du marché immobilier américain, en fait, prend fin cette ère où le capitalisme accordait encore un crédit aux pauvres gens. C'est-à-dire que ce système du crédit à la consommation et du crédit, par exemple, pour l'accès à un bien immobilier qui avait fait quand même la force du capitalisme durant les 30 Glorieuses, a lui-même pris fin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'impossibilité, vous l'avez très bien mise en lumière, l'impossibilité d'accéder au crédit est en soi peut-être la première manifestation de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on vous renvoie pour la première fois à votre pauvreté quand votre conseiller bancaire, qui gagne en moyenne 1 600 euros par mois d'ailleurs, vous dit « Non, vous êtes trop pauvre, on ne peut même pas vous accorder un prêt à la consommation pour acheter un véhicule ou pour financer même des courses. » Pour mémoire, à Noël, 2/3 des Français ont payé les cadeaux de Noël avec de la dette. Alors, soit c'est de la dette pure, effectivement, sous forme d'un crédit à la consommation, ou soit c'est ces microcrédits que vous évoquiez et qui sont souscrits en fait auprès de supermarchés ou autres pour payer en 2, 3, 4, 5 fois, et puis avec les frais qui les accompagnent. Et donc on a une situation qui ressemble un peu à celle des pays qu'on appelait jadis du tiers-monde, où vous aviez ces systèmes-là de micro-micro-crédit, mais d'impossibilité d'accès à des sommes un peu plus importantes pour pouvoir investir Et le problème, c'est que dans le monde tel qu'il est fait aujourd'hui économiquement, ben, l'argent appelle l'argent, c'est-à-dire l'argent permet la dette et la dette permet l'argent, et la pauvreté, donc, conduit à la pauvreté, parce que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance, donc vous achetez tout au dernier moment au plus fort, et puis parce que il n'y a pas d'économie d'échelle possible. Et donc, on est dans un système qui est quasiment le système à l'indienne, hein, presque, hein, de renforcement, en réalité, de la condition sociale préexistante. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Et le système de répartition, puisque c'était le point de départ de social franco, n'est pas complètement étranger.
Alors, je voudrais juste citer un chiffre donc, que la Fédération bancaire française brandit avec fierté. Le crédit à la consommation enregistre également une évolution très positive. Les encours augmentent de 3,6% et donc s'établissent à 221 milliards d'euros en France, avec des taux moyens bien plus faibles qu'ailleurs en Europe, 6% par opposé à 7,2% en moyenne dans la zone euro pour les nouveaux crédits. Donc la France a fait le choix en fait d'endetter sa population. C'est un choix absolument fascinant puisque les politiques d'une manière générale ne jurent que par la relance, par la consommation, c'est-à-dire il faut soutenir l'emploi de ceux qui produisent en faisant en sorte que tout le monde puisse acheter plutôt que de se dire ben non en fait commençons par être capable de produire à nouveau, commençons par soutenir les producteurs, commençons par protéger les producteurs, faisons en sorte d'établir une véritable richesse. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ce sont tous ceux qui nous expliquent ne donne pas un poisson à celui qui a faim, apprends-lui à pêcher, qui au contraire nous expliquent que sinon la véritable justice sociale, c'est de faire en sorte de distribuer un argent vraiment pas cher, voire totalement gratuit, plutôt que de faire en sorte que le tissu des PME, le tissu des PMI et même le tissu de l'artisanat soit renforcé. Eh bien non, ça c'est une idée qui ne vient à aucun des politiques.
Parce que les politiques, a priori, n'ont pas pris les sujets dans le bon ordre. Ils sont restés sur ce vieux modèle de la relance keynésienne, de l'économie, à savoir vous donnez 1 à quelqu'un et puis il va aller dépenser 1,2 dans l'économie et donc à la fin il y a un gain pour tout le monde. Mais sauf que pour ça, il faut qu'il y ait du travail. Or, quand on a tout misé sur la consommation, en parallèle, on a désindustrialisé et on a tertiarisé à fond l'économie en créant de nouvelles fragilités. Et donc, aujourd'hui, il est même plus possible en fait de faire des relances par la consommation parce que les finances publiques sont exsangues, d'une part, et puis parce qu'il n'y a plus la quantité de travail suffisante pour permettre même à des gens d'accéder à ces consommations-là. Et là, on a vraiment le sentiment que dans les années 2024, 2025, 2026, il y a eu une forme de bascule, c'est-à-dire que jusqu'au moment du Covid, les travailleurs pauvres, d'une certaine façon, vivaient sur une certaine lancée qui n'était pas très glorieuse, mais qui permettait quand même d'être inséré dans l'espace social. Et cette dynamique s'est complètement cassée depuis 2 ou 3 ans. Et les témoignages, par exemple, de grandes associations comme les Restos du Cœur ou autres, le démontrent très bien. Il y a un assèchement du tissu économique qui fragilise en fait un certain nombre de familles et qui crée, le chômage pour la première fois repart à la hausse depuis quelques années et qui crée donc de très très grandes fragilités sociales. Donc en fait, à nouveau, peut-être qu'on est perdant maintenant sur les deux tableaux, c'est-à-dire on est perdant à la fois sur le volet de la solidarité et du lien culturel, organique, parce qu'il s'est dissous, il a été dissous par le marché, et en même temps, le marché et l'État qui... Ils sont complices d'une certaine façon, ne remplissent plus leurs promesses, à savoir celle de permettre aux gens qui travaillent de pouvoir accéder à des standards minimums en termes de niveau de vie. Et je ne parle même plus de l'accès à la propriété parce qu'on n'en est plus là, mais simplement de pouvoir manger de la viande de temps en temps, de pouvoir se chauffer en hiver.
Je voudrais juste opposer à ce qu'on est en train de raconter la situation personnelle de Donald Trump qui m'a frappé hier quand j'étais en train de préparer cette émission. C'est un article du Figaro qui nous parle de la manière dont Trump est un président qui fait prospérer ses intérêts. le magazine Forbes, qui publie chaque année la liste des grandes fortunes américaines, a estimé ce mois-ci sa fortune à 6,2 milliards de dollars contre 4,3 milliards de dollars en 2024. Donc c'est sympa, il a gagné en gros 2 milliards depuis qu'il a été élu. Donald Trump a la présidence la plus lucrative de l'histoire américaine, ajoutant des milliards à sa fortune, en grande partie en tirant profit des crypto-monnaies. Donc, il a gagné 2 milliards, donc il a renoncé à son salaire de 400 000 dollars par an. Donc, c'est sympa de sa part, mais visiblement, il peut se contenter d'encaisser les crédits, enfin, d'encaisser les bénéfices avec des taux minables. Alors qu'il s'était engagé lors de son premier mandat en 2017 à ce que lui et sa famille ne fassent rien qui puisse être perçu comme une exploitation de la fonction présidentielle, il n'a fait aucune promesse de ce genre depuis son retour au pouvoir. Et même au contraire, voilà, donc ces entreprises familiales signent des contrats partout, et ils ont lancé des entreprises de crypto-monnaies, et donc l'immobilier va bien. Il y a quelque chose d'absolument surprenant dans la manière dont aujourd'hui, ceux qui nous parlent de démocratie, ceux qui nous parlent de bien commun, ceux qui nous parlent d'intérêt général, sont en fait, semble-t-il, véritablement au service des riches et d'abord à leur propre service. Alors, d'une façon un peu minable, comme ces députés qui se votent des augmentations de leurs indemnités alors que le peuple français est en train de crever de faim, ou de façon plus somptueuse et plus brutale et plus assumée, comme Donald Trump, qui considère qu'il est le VRP des États-Unis, mais d'abord de ses propres entreprises. Comment expliquer que les riches aient à ce point-là pris le pouvoir ?
Le cas de Donald Trump est vraiment intéressant parce qu'il résume un peu l'évolution qu'on essaie de dessiner. Rappelez-vous, Donald Trump, à un moment, il fait face à des dettes colossales. Il a ses affaires à Atlantic City qui périclitent complètement. Et en fait, les dettes sont telles que ce n'est plus un problème pour Donald Trump, c'est un problème pour la banque. Et donc la banque, parce qu'il est très endetté, n'a pas d'autre choix. Ses banquiers, ses créanciers n'ont pas d'autre choix que de le suivre. La fortune de Donald Trump, elle est d'abord permise par la dette et par un endettement, évidemment, qui serait interdit aux communs des mortels comme vous et moi. Et puis, elle se transforme, vous parlez des crypto-monnaies, un peu en se financiarisant, d'une certaine façon, mais pour se financiariser, ça suppose déjà un capital préexistant, et donc c'est là où on en revient au point précédent, à savoir que l'argent appelle l'argent et que la pauvreté appelle la pauvreté dans cet état, admettons qu'il soit final, espérons qu'il soit final, du capitalisme néolibéral de connivence, pour parler un petit peu au sens large. Et donc aujourd'hui, vous avez ces logiques de prédation, en réalité, qui ne sont plus fondées sur le travail et qui permettent de tirer des ressources absolument infinies, quand le travail, lui, bien véritable, des gens qui... Vous voyez, font les travaux à l'extérieur de chez moi et se lèvent très tôt le matin pour aller prendre le marteau-piqueur, ces gens-là, eux, ne peuvent plus vivre décemment de leur travail. Et donc, il y a aussi, quand on parle des fois de la dissolution de toutes les représentations dans le monde contemporain, en Occident, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que quand vous envoyez le signal aux gens que le travail ne vous permet plus de vivre et que c'est plutôt... la transgression en réalité, ou des logiques de profit sans peine qui vous enrichissent, il ne faut pas s'étonner ensuite que des petits jeunes préfèrent vendre de la drogue plutôt que de faire des études pour aller gagner 3 clopinettes. Donc tout ça a des répercussions très concrètes sur la façon dont fonctionne notre société. Et c'est bien dommage que le Trumpisme qui... avait tenté d'incarner un peu la Rust Belt américaine et ces petits blancs oubliés, hein, avec le fameux film tiré du livre de J.D. Vance, se soit transformé finalement en autre expression de cette société nauséabonde qui crée tant de difficultés pour les gens honnêtes.
Alors, ça nous éloigne de la France, mais un tout petit mot sur cette ceinture rouillée, donc la Rusty Belt, donc qui est en fait la zone des anciennes industries américaines, donc voilà où la rouille a gagné l'acier, puisque voilà on n'y produit plus de voitures, on n'y produit plus rien. En France aussi, il y a une désindustrialisation continue. À bas bruit, dirais-je, parce que on apprend, voilà, que les papeteries Conda sont en difficulté. On a tous frémi en apprenant, et Philippe Murer le rappelait tout à l'heure ce matin, qu'il y a cette aciérie qui existait depuis François Ier et qui a fermé ses portes sous Macron Ier. Et on, peu à peu, en fait, c'est tout le tissu français qui est des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui disparaît. Et c'est véritablement quelque chose de navrant, parce que, bien sûr, une usine qui disparaît, c'est aussi le restaurant à côté qui n'a plus personne pour être entretenu. Comment les Français vont-ils pouvoir imaginer un avenir qui ne soit pas fait de revenus universels, de robotisation et de loisirs forcés ?
Il y avait une différence peut-être fondamentale entre les États-Unis et la France, qui était celle de la standardisation. C'est-à-dire que très vite, probablement du fait de l'histoire récente américaine, c'était tout pour big business ou des middle business, très grosses ETI pour nous, en tout cas, même si elles étaient d'origine familiale. Et avec des réplications à l'échelle nationale, puis continentale et internationale. Quand la France, elle, avait préservé un cadre... des corporations, hein, où dans les départements, en fonction de la spécificité du terroir, en fonction de l'histoire du coin, etc., vous aviez des savoir-faire à échelle locale, mais qui avaient une forte valeur ajoutée, qui n'était pas standardisée, qui n'était pas réplicable par ailleurs. Je pense à la porcelaine, par exemple, à Limoges, et qui permettait aux gens de vivre. Et qui leur permettait de vivre financièrement, mais qui leur permettait aussi de trouver une place et d'être d'une certaine façon quelqu'un quelque part. Or, le monde aujourd'hui vous prive d'être quelqu'un quelque part, et en plus, il vous prive de vivre de votre travail. Et ça, c'était quelque chose qui restait un peu permis à la France, qui était encore un peu engluée dans le modèle économique de l'ancien régime. Par contre, ça ne répond pas vraiment à votre question, mais je crois qu'on prend là ce chemin qui est le chemin tracé par les États-Unis au début du XXe siècle, qui est celui en fait de la grande standardisation. Et la standardisation, eh bien, c'est la robotisation. Et c'est la perte aussi de la véritable valeur ajoutée, puisqu'en fait, tout se ressemble. Et le caractère exceptionnel au sens propre du terme qu'a fait par exemple le luxe français, aujourd'hui se dilue dans un océan de représentations convenues, de médiocrité. Vous achetez du Vuitton, vous achetez du plastique. Aujourd'hui, il faut se parler quand même très, très, très clairement. Et donc, c'est assez navrant pour les savoir-faire, c'est assez navrant pour la culture de la main et celle de l'esprit. Et puis évidemment, pour celle des pauvres gens qui étaient derrière, qui avaient un métier, qui existait socialement et qui se retrouve aujourd'hui dans une oisiveté forcée et sans raison d'être véritable. Et à nouveau, c'est peut-être la cause profonde, au-delà de tout le reste, mais peut-être la cause première, en tout cas, du grand malheur d'aujourd'hui.
Voilà. Vous avez raison de parler de la culture de la main, et on va terminer là-dessus. D'abord, en encourageant tout le monde à lire L'éloge du carburateur, livre fondamental où un jeune fils de hippie raconte comment il a appris à lire Platon dans le texte pour faire des études de philo, est devenu consultant et finalement préfère réparer ses mobilettes parce qu'il a l'épreuve de la main, et justement ça lui paraît être un rapport au monde beaucoup plus nourri, et aussi pour rappeler qu'il a des loisirs qui sont compliqués à apprendre mais qui ensuite ne coûtent rien. C'est par exemple la musique ou la sculpture sur bois, et que tous ceux qui ont fait un effort d'apprentissage et de conquête du monde réussissent en fait justement à échapper à ce système marchand des loisirs qui ne peuvent être que tarifés. Merci beaucoup Rémy Tell pour cette réflexion en début de carême. Bon courage pour la suite, et bien sûr à dans 15 jours.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Richard de Sèze.
Et tout de suite, la chronique de Jérémy Combe qui va nous parler de savoir-vivre et ensuite Tugdual Denis nous parlera de l'actualité. Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, une question cruciale, où place-t-on le pain à table et pourquoi ?
Ah, merci de reconnaître cette importance mais oui. Dans ce que je vais faire ce matin et je vais surtout libérer beaucoup de personnes pour le déjeuner. Ils vont savoir, vous allez savoir. À table, il y a un détail auquel beaucoup de Français ne font pas assez attention, c'est le pain. Et pourtant, sa place n'a rien d'anodin. À table, une question revient souvent, où met-on le pain ? Dans l'assiette ? À côté, sur une petite assiette spéciale, la réponse française est très claire et très surprenante pour beaucoup d'étrangers. Le pain ne se met jamais dans l'assiette. Il se pose directement sur la table, à gauche de l'assiette ou devant soi à l'heure du déjeuner et dans une assiette à pain ou, si vous n'en avez pas, une sous-tasse pour le dîner. Et ce geste que l'on croit banal raconte en réalité toute une histoire. Pendant des siècles, le pain n'est pas un accompagnement. C'est l'aliment central des repas. Sous l'Ancien Régime, le pain nourrit, structure, mais aussi rassure. Il est présent à chaque repas, dans toutes les classes sociales. On ne le mélange pas aux sauces, on ne le traite pas comme un simple aliment. Le pain est posé à part, car il est presque sacré. Dans certaines régions, poser le pain à l'envers était même considéré comme un très mauvais présage, car le pain retourné était réservé aux bourreaux. Le pain mérite donc respect, visibilité et autonomie. Dans les grandes maisons, on observait attentivement la manière dont un invité traitait le pain. Un convive qui posait son pain dans l'assiette, le coupait n'importe comment ou le laissait tremper dans la sauce, était immédiatement identifié comme un mal éduqué, on dirait aujourd'hui un plouc. A l'inverse, quelqu'un qui rompait le pain calmement, en petits morceaux et le posait proprement sur la table, montrait qu'il connaissait les usages. Le pain devenait ainsi un test silencieux de savoir-vivre. Oui, oui. Concrètement, à la française, le pain se pose directement sur la nappe, jamais dans l'assiette. On en rompt un petit morceau à la fois, on ne mord jamais dans le pain entier, on ne joue pas avec, même avec l'ami, et on ne l'utilise pas comme une éponge à sauce. Pourquoi ? Parce que le pain accompagne le repas, il ne le domine pas. Aujourd'hui encore, ce geste reste très présent en France. Même dans des repas simples, familiaux, le pain garde sa place à part. Ce n'est pas du snobisme, c'est une mémoire culturelle. Respecter le pain, c'est respecter le déjeuner ou le dîner, en un autre terme, les repas. Et ceux avec qui on le partage. En France, le pain n'est jamais banal, on ne le cache pas dans l'assiette, on lui laisse sa place. Parce qu'à table, le respect commence souvent par les gestes les plus simples, cher Richard.
Alors, Jérémy, merci. Et en même temps, un abîme s'ouvre devant moi. On ne peut pas saucer avec son pain, même planté au bout d'une fourchette.
Ça, on peut le faire, mais on ne le fait pas de telle façon à rendre l'assiette plus propre que si elle sortait du lave-vaisselle ou si le chien s'en était déjà occupé.
Ok.
Mais voilà, vous pouvez saucer avec votre fourchette.
Pourvu que je puisse saucer. Merci Jérémy Combe.
Je vous en prie.
Ligne droite, la revue de presse.
Alors, et pour la revue de presse, nous allons attendre un petit peu que Tugdual Denis se connecte. Voilà, Tugdual Denis, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, et partenaire de Radio Courtoisie, et en tout cas partenaire de la matinale Ligne Droite, qui a consacré la couverture de cette semaine à l'affaire Quentin. Voilà, je suis un peu en train de meubler parce qu'on attend que Tugdual réussisse à se connecter.
Et voilà. Il est dans le tuyau, il va arriver dans 5 secondes.
C'est parfait, je vois que son nom apparaît sur l'écran. Bonjour Tugdual.
Bonjour Richard, je suis désolé, j'ai quelques secondes de retard si je comprends bien.
Non, c'est vraiment pas grave. C'est toujours l'exercice, j'ai l'impression d'être la fille qui présente le Euro Million à la télé. C'est l'émission la plus compliquée à présenter parce qu'il n'y a rigoureusement rien à dire. Elle est là en train de parader sur ses talons hauts devant des boules qui tournent en expliquant que c'est génial et que le 17 est sorti. Pour moi, il n'y a pas plus compliqué comme exercice télévisuel. Vous avez consacré...
Je suis sûr que vous seriez parfait dans le rôle.
Bah oui, surtout les talons. Vous avez consacré votre couverture cette semaine, évidemment, à l'affaire Quentin, qui a secoué la France entière.
Oui, alors bonjour à tous vos auditeurs. Vous parlez de la couverture, c'est d'abord de la couverture, effectivement, dont j'ai envie de vous parler avant même du contenu. On s'est posé pas mal de questions sur la manière. Alors, il n'a fait aucun doute pendant le week-end que on avait prévu un autre sujet à la une. Il n'a fait rapidement aucun doute que nous devions changer nos plans et évidemment rendre hommage à Quentin. Et quand je dis rendre hommage, je voulais absolument rendre l'humanité de ce jeune homme. C'est-à-dire que ça faisait déjà quelques jours que sur les chaînes d'infos et dans des journaux pas toujours bienveillants à l'égard de la droite, Quentin était présenté avant tout comme un militant, comme un nationaliste, comme voilà, quelqu'un qui avait un parcours politique fort, soit. Et en réalité, c'est d'abord et avant tout le fils de ses parents, un étudiant de 23 ans, qui avait la vie devant lui, qui aurait dû faire plein de choses triviales ces derniers jours, continuer son existence. Et je crois que le rôle de la presse de droite est aussi de temps en temps de rendre l'humanité qu'on dénie à certaines personnes, que ce soit des victimes politiques, que ce soit des personnages politiques, que ce soit des figures sociétales, qui sont souvent enfermées par les mots de l'adversaire dans quelque chose de très réducteur. Et donc, on a fait une très minimaliste, ça s'appelle Quentin, avec la colline de Fourvière en arrière-plan. Et on a juste marqué sur la une « Vie et mort d'un jeune homme de 23 ans ». Je crois vraiment, j'insiste, excusez-moi un peu lourdement là-dessus, Richard, que notre camp doit faire très attention à ne pas tomber dans l'instrumentalisation qu'on dénonce à longueur de journée chez nos adversaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de Quentin, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de la Jeune Garde, qu'il ne faut pas parler de Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne faut pas parler de la violence de l'ultra-gauche, évidemment, et on en parle sur de longues pages dans à l'intérieur de ce numéro, mais ça veut aussi dire que ce qui nous différencie, je pense, des autres, c'est la dignité, l'honneur, le panache, et dans ces moments-là, dans ces moments d'émotion, de drame, de tragédie, je crois que la droite doit montrer l'exemple de ce qu'est une bonne éducation et de ce qu'est une juste mesure dans le traitement des choses. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on a notamment un papier de Marc Hainaut à l'intérieur de ce dossier qui documente les liens entre la Jeune Garde et la France Insoumise, que la France Insoumise essaye de mettre sous le boisseau, que les alliés de la France Insoumise essayent de mettre sous le boisseau ces derniers jours, et qui sont pourtant tout à fait concrets, tout à fait réels. Depuis des années, vous aviez ce pas de deux entre la mouvance Antifa et le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas du tout anodin que la mort de Quentin soit intervenue après l'organisation d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Ça nous dit d'ailleurs beaucoup de la jeunesse française, puisque Rima Hassan est interdite de Sciences Po Paris, par exemple, depuis que la direction a changé et que cette institution vénérable est redevenue fréquentable et a retrouvé un peu ses esprits peu à peu. Le nouveau directeur, on avait fait un portrait dès sa nomination, le nouvel directeur de Sciences Po Paris, quelqu'un de quand même bien plus charpenté et rationnel que son prédécesseur. Cette responsabilité morale de la France Insoumise, elle est évidemment évoquée dans le journal. Il y a un gros portrait de Quentin par Nicolas Boutin. Il se trouve que Nicolas Boutin, qui est notre rédacteur en chef région et un excellent journaliste, je suis jugé parti de le dire, mais de Valeur Actuelle, connaissait Quentin puisqu'il avait fait un pèlerinage avec lui en Provence, un pèlerinage qui s'appelle Nostafé, que vos auditeurs connaissent peut-être, qui est une déclinaison provençale du Fays Ébreiz breton et du national pèlerinage de Chartres. Nicolas Boutin avait marché avec Quentin, avait vu assez concrètement de quoi il retournait quant à la conversion de ce jeune homme qui n'a pas du tout qui n'est pas du tout né dans une famille catholique, qui est venu à la fois tard. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez Quentin, et c'est ça qui me choque, si vous voulez, dans la manière dont une grande partie de la presse, y compris parfois de droite, traite cette affaire. Quentin, la vérité de la vie de Quentin de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est que c'est surtout quelqu'un qui allait beaucoup à la messe, qui lisait beaucoup de philosophie, qui réfléchissait beaucoup, qui était posé, qui avait des discussions profondes avec son entourage, et c'était pas du tout un bout de feu, pas du tout un activiste, pas du tout quelqu'un qui versait dans l'agite propre et qui cherchait la castagne. Et il se trouve que donc le hasard a voulu, le destin a voulu qu'un de nos journalistes connaisse ce jeune homme et qu'il a pu, mais avec d'autres, je pense à Paul Sugy ou Figaro par exemple, qui a fait des excellents articles poignants sur ce jeune homme, bah, rendre l'existence quoi de ce garçon. Et évidemment qu'on a toutes les pages disponibles pour attaquer la France Insoumise, et on le fait, mais pardon de rappeler que voilà, c'était d'abord le fils de ses parents et l'ami de ses amis, ce jeune homme. Donc, Nicolas Boutin a fait ce grand portrait. Et puis, on est revenu aussi sur le déroulé des faits, parce que là aussi, quand on allume la télévision, parfois, on est un peu estomaqué de la manière dont sont rendus les événements. Et donc, on a raconté minute par minute ce qui s'était passé entre le moment où Quentin avait décidé, par panache, beaucoup plus, je pense, que par militantisme bas de plafond, de venir aider des jeunes femmes de Némésis, parce que pour lui, l'idée que des jeunes femmes, qu'elles soient de Némésis ou d'une autre association, l'idée que des jeunes femmes puissent être agressées dans l'espace public lui était insupportable, et que c'était quand même une bonne raison tout d'un coup de rompre son quotidien et d'aller encadrer ou participer à l'encadrement de cette manifestation de Némésis.
Merci beaucoup, Tuc Dual. Voilà, donc c'est le numéro qui est en vente actuellement dans les kiosques. Voilà, un véritable portrait de Quentin, au-delà des polémiques. Merci et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Richard.
Zone libre.
Et pour la zone libre, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Rigaudière.
Encore une fois, seul. Seul comme toujours.
Incroyable. Vous n'êtes pas seul.
Partie de ligne droite.
Avec plaisir. Hein. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Bah, écoutez, oui, on est en petit comité encore une fois ce matin. Mais bon, écoutez, ça me laisse un petit peu plus de temps de parole. Hein, on ne va pas se plaindre. Je voulais vous parler évidemment de Quentin, mais sous un angle un peu différent. Parce que si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'archives qui remontent en ce moment d'anciens responsables politiques qui avaient des liens très troubles avec les Antifa. Et je me suis rappelé d'un événement qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale en mars 2025, où des personnalités de la mouvance, très proches en tout cas de la mouvance islamiste, avaient été accueillies par l'extrême gauche pour tenir des réunions, des conférences, etc. Évidemment, à l'époque, il y avait eu une bronca et une levée de bouclier contre ça, notamment des députés de droite. Et puis, pour cette réunion, certains députés comme Anan Mansouri et Charles Alloncle, hein, que vous devez connaître, qui est rapporteur de la commission d'enquête sur le service public, était intervenu pour tenter de stopper cette réunion, et ça avait donné lieu à une vidéo qui a depuis beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Je vous en ai découpé un extrait, écoutez.
Bonjour, excusez-moi, chers collègues. On a un certain nombre de collègues députés qui ont demandé la donation de cette table ronde. On voulait simplement vous remettre.
Allez, on va vous laisser sortir, s'il vous plaît.
Et on va pas filmer, s'il vous plaît.
C'est gentil.
Allez, merci, messieurs, dames.
Merci, au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
Allez, les racistes. Allez, les racistes. Allez, les racistes. J'espère que vous avez bien honte d'imposer le racisme. Allez, allez. Allez, les racistes. Allez les racistes, allez hop.
Allez hop, allez les racistes.
C'était Favreau, ça.
Et bah justement, vous pensez avoir reconnu la voix ?
Non, c'est Arnaud, je crois.
C'est Raphaël Arnaud, ouais. Exactement, qui tout de suite s'est mis devant la porte et pour bloquer le chemin des députés UDR. Et alors, vous n'avez pas l'image, évidemment, mais on aperçoit dans cette petite vidéo un certain Jacques-Élie Favreau, justement. Là, voilà, c'est là que le nom que vous avez cité, qui tentait d'arrêter la personne qui était en train de filmer. Et c'était un petit peu le chaos, hein, vous l'entendez, c'est un petit peu... voilà, tout se mélange dans ce genre de scène. Mais le plus extraordinaire, c'est pas ça. C'est que depuis, il y a eu une réaction, parce que cette scène avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque, une réaction de Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui avait publié un communiqué lunaire. Je vous lis un extrait. « Vous pouvez avoir une opinion sur ce type de réunion, la mienne est connue. Je regrette que des députés fassent entrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale des personnes dont le discours contrevienne aux valeurs de notre République. Dans ces conditions, votre attitude est inacceptable, en ciblant les députés UDR. L'Assemblée nationale n'est pas un lieu de spectacle ou de coup médiatique, mais une institution qui doit être exemplaire. Je vous prie désormais de respecter les règles en vigueur. » C'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit de ces gens, notamment de l'extrême centre, qui choisira toujours, quel que soit le contexte et quel que soit ce qu'on pourrait reprocher à un tel ou un tel, choisira toujours la gauche ou l'extrême gauche. À l'époque, voilà, c'était bien connu que c'était des antifas à minima violents, et Yaël Braun-Pivet
qui recevait des islamistes,
mais vraiment en assumant totalement, en ne cachant pas leur carte, et a préféré décider de cibler des députés pacifistes venus bloquer une réunion, intervenir en tout cas, en ciblant Charles Alloncle et Anan Mansouri. C'est absolument lunaire, et c'est pour voilà, vraiment vous faire comprendre que l'extrême-centre ne choisira jamais le camp national. Voilà.
Vous concluez.
Merci beaucoup.
Merci Gérard Marché, conseiller, si nous écoute.
Louis Rigaudière. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de la matinale sur YouTube et sur X, mais elle continue. Et bien sûr, pour que nous puissions continuer ces émissions, il suffit de nous donner un peu de sous.
Un peu de sous en fonction de vos moyens. Si vous avez de gros moyens, vous pouvez aussi envoyer beaucoup de sous pour soutenir Radio Courtoisie, pour lui permettre de rester indépendante, de refuser la publicité et les subventions. C'est tout simple, vous allez sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Un grand merci d'avance.
Et nous allons réécouter l'interview qui a été faite ce matin avec le docteur Michel Procureur, donc un médecin jugé pour avoir défendu ses patients pendant la période du Covid.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Michel Procureur. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour Ligne droite. Bonjour aux auditeurs.
Vous avez, pendant la période du Covid, exercé sans être vacciné pendant 7 mois, si je ne m'abuse. Vous avez délivré de faux certificats de vaccination, selon la manière dont on vous accuse. Et pour ce faire, en 2023, vous avez été suspendu par l'ordre des médecins, interdit d'exercer pendant 3 ans. Et par ailleurs, une procédure au pénal a été engagée avec des choses un peu surprenantes, comme par exemple le fait que vous ayez prescrit des prothèses auditives à vos patients qui en avaient besoin pendant que vous n'étiez pas vacciné, vous vaut la demande de remboursement des prothèses par la Sécurité sociale. On ne comprend pas exactement quel est le cheminement intellectuel qui consiste à dire que le fait qu'un médecin qui ne soit pas vacciné proposant de soigner des malades qui sont vraiment malades avec des examens qui sont vraiment nécessaires, comme les scans que vous avez fait passer à des cancéreux, ou ces prothèses auditives évidemment nécessaires à ceux qui sont sourds, aboutirait au fait qu'on lui demande de les rembourser. Vous avez été auditionné par l'Ordre des médecins le 17 février, vous serez jugé au pénal le 9 mars 2026. Où en est votre parcours judiciaire à la fois vis-à-vis de l'Ordre et vis-à-vis de la justice française ?
Ben oui, ben écoutez, vous avez très bien résumé la situation. J'ai fait appel de ma condamnation de 3 ans d'interdiction d'activité. Je suis passé en appel à la chambre disciplinaire de l'Ordre national de l'Ordre des médecins à Paris. Et pour la petite histoire, je vais introduire notre débat parce que j'ai pu lire sur les murs de la salle d'audience de cette salle. Donc, on pouvait lire, gravé sur les murs de cette salle, « J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. » Donc ça, c'est ce qu'on pouvait lire sur les murs de cette salle d'audience. Et donc, j'étais face à des confrères, à des médecins, à un juge du Conseil d'État. Mon avocat m'accompagnait. Et sa plaidoirie a été, je pense, très convaincante. Il a introduit les choses par un rappel d'Antigone de Sophocle, qui est une tragédie grecque, hein, dont j'invite tous les auditeurs à revoir l'histoire de cette tragédie. Et ensuite, il a argumenté qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir de consentement libre et éclairé par une information complète et loyale vis-à-vis des patients, puisque la firme elle-même, pour ne pas la nommer Pfizer, vient de révéler enfin que par ses contrats, elle n'avait jamais testé l'efficacité de son produit, que la transmission n'avait pas été testée non plus, qu'elle exigeait des clauses d'irresponsabilité des effets secondaires, des causes de non-traçabilité des lots. Donc on peut vraiment se poser des questions. Il connaissait des tas d'effets secondaires qui n'ont pas été annoncés, qui ne devaient être révélés que dans 75 ans, mais grâce à des actions juridiques aux États-Unis et comme celle de Marc Doyer qui a perdu sa femme Morissette d'un Creutzfeldt-Jakob fulminant après injection, il a pu mettre la main sur ces contrats qui ont révélé ces clauses complètement étonnantes. Donc, moi, de mon côté, je n'ai fait qu'énoncer ce que j'ai constaté lors de mon activité pendant le Covid, c'est-à-dire la mort d'Anthony Rio, qui est cet étudiant de sixième année de médecine, qui avait 24 ans, qui avait reçu qu'une seule dose d'AstraZeneca et qui est mort de thrombose dans tous les organes. Et ça, ça remonte au 18 mars 2021, soit 10 jours après son injection. J'ai parlé d'Élodie Magne, qui est une jeune femme de 21 ans qui est morte d'une thrombose de la carotide, de Sofia Benarira, qui avait 17 ans, qui est décédée à Gardanne, d'Eva Musso, qui avait 30 ans, qui est décédée à Gardanne, de Maxime Beltra, qui était dans le sud, qui avait 19 ans, qui est mort d'une tamponade cardiaque après péricardite. J'ai parlé également de Ludovic Claire, qui avait une trentaine d'années, qui avait 35 ans, qui est mort après ses injections également. Enfin, la liste est vraiment interminable. Et maintenant, j'ai cité également des articles revus par les pairs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des articles scientifiques qui sont publiés et dont le sérieux du scientifique est tout à fait avéré par un consensus de scientifiques qui les lisent et qui les relisent et qui permettent leur publication. Donc, on retrouve dans ces articles scientifiques que des métastases de cancer du sein sont actuellement bourrées d'ARN messager et de spike, comme des artères cérébrales de gens qui sont morts après AVC, après injection. On retrouve également ces produits comme de la spike et de l'ARN messager, 3 ans et demi après même les injections maintenant. Mais voilà.
Docteur, effectivement, il y a ce débat scientifique qui a été enfin ouvert et la communauté scientifique, peu à peu, laisse passer une série d'articles sur lesquels, en tant que journaliste, évidemment, je n'ai aucun avis éclairé médical, mais comme vous l'avez souligné, ce sont des revues médicales établies qui laissent passer des articles revus par des scientifiques qui expliquent qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a des effets secondaires nocifs, chose qui, à l'époque, avait l'air d'être totalement interdit. Vous avez prononcé ce plaidoyer avec votre avocat, vous avez été interrogé par l'ordre des médecins. Est-ce que la décision, puisqu'il s'agissait de faire appel de votre suspension, est-ce que la décision a été rendue le 17 février ou est-ce que la décision est rendue à plus tard ?
Non, la décision leur appartient encore. Elle ne viendra que dans, je pense, dans deux, trois mois, donc sans doute après mon procès pénal dont vous avez parlé le 9 mars à La Roche-sur-Yon.
Voilà. Alors, ce procès pénal, c'est autre chose. Vous avez cité tout à l'heure Marc Doyer. Je tiens à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que je recevrai Marc Doyer dans Restons Courtois mardi prochain à 17h30. Et on a maintenant le volet légal. Donc là, vous êtes jugé par vos pairs et on sait à quel point l'ordre des médecins s'est toujours illustré dans une certaine complaisance vis-à-vis du pouvoir. On a et aussi une certaine complaisance vis-à-vis de d'autres crimes comme la pédophilie. D'une manière assez surprenante, l'ordre des médecins est très pointilleux sur un certain nombre de choses, mais assez laxiste sur d'autres, mais ça nous entraîne un peu loin. Le 9 mars, vous êtes jugé parce que, en fait, on considère que avoir exercé la médecine sans être vacciné, avoir délivré des faux certificats, est quelque chose de particulièrement préjudiciable. Comment l'État français vous attaque-t-il ? Qu'est-ce qu'il vous reproche exactement ?
Comme vous l'avez résumé dans l'introduction, il trouve un moyen de me punir par le fait effectivement que je n'étais pas vacciné. Je l'ai reconnu, j'ai été dénoncé par un pharmacien. Il y a une enquête de police
un bon
qui
français.
A été menée. Enfin bon, on ne revient pas à cet épisode-là. Donc j'ai effectivement dit que comme il fallait se faire vacciner tous les 3 mois et en plus rester assis dans les restaurants pour ne pas être contaminé, je ne voulais pas de ces produits pour ma fille qui devait se faire vacciner et pour mes enfants et pour mes patients, bien sûr, qui perdaient leur boulot, qui subissaient une contrainte énorme et qui étaient soumis à une détresse humaine à laquelle j'ai fait face et à laquelle j'ai répondu comme j'ai pu, puisque nous, on est payés pour garder nos patients et nos enfants, a fortiori, en bonne santé. Et moi, j'ai refusé cette injection. On était obligé. La France est un des rares pays où l'obligation vaccinale était de mise pour les soignants. Moi, j'étais formé en Belgique. Jamais la Belgique n'a réclamé cette obligation. Donc, ça ne me serait pas arrivé si j'étais tout simplement resté dans le pays où j'ai fait mes études. Mais bon, j'étais face à cette obligation et à ces constatations catastrophiques. Pour moi, c'était réellement, je vous dis, entre les pathologies de Maurice Edoyer, dont on parle comme sa maladie à prion, son Creutzfeldt-Jakob qui l'a emporté en trois semaines plutôt, et puis les myocardites, les péricardites, les maladies neurodégénératives comme celles que collectionne Mathieu Dubois dans son collectif de A Victime. Il en a presque une cinquantaine. Moi, j'en avais vu pendant 35 ans, j'en avais vu deux, et c'était des patients qui étaient âgés de plus de 80 ans. Donc ici, ce sont des gens qui ont 35 à 50 ans, et dont l'une, Mélanie Maupa, et dont le papa viendra certainement témoigner à mon procès, a demandé une euthanasie. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années également, et qui est en train de mourir au bout de plusieurs mois d'évolution de cette maladie neurodégénérative, qui restait une maladie rare, et qui est une maladie qui est maintenant réellement, littéralement, en explosion. Hein, donc, ces maladies neurodégénératives, et puis tous ces problèmes de ménométrorragie, de saignement énorme chez des patientes qui ont été vaccinées. Là, je fais référence à Mélodie Ferron, qui a témoigné devant le Sénat en mai 2022, en même temps qu'Amine Numlil témoignait pour des enfants devenus aveugles après ces injections. Mélodie Ferron témoignait, elle, de dizaines de milliers, je pense qu'elle est à autour de 15 à 17 000 femmes maintenant qui présentent des problèmes, comme des jeunes filles de 15 ans qui ne sont plus réglées et qui sont en ménopause précoce, et de femmes de plus de 80 ans qui recommencent à avoir des règles et qu'on doit hystérectomiser tellement elles saignent. Donc on a vraiment de quoi se poser des questions face à ces injections. Et je pense que d'autres pays ont remis en cause ces injections bien plus rapidement que nous, en France, je veux dire. On reste de nouveau la lanterne rouge des pays qui remettent en cause ces injections.
Alors, et l'État donc décide non pas de vous attaquer sur l'analyse médicale que vous faites, le discours, le regard critique au sens doute méthodique et scientifique que vous portez sur ces vaccinations obligatoires et leurs effets. Non, il vous attaque parce que n'ayant pas été vacciné, il serait nécessaire, c'est la sécurité sociale notamment qui vous attaque, que l'ensemble des actes médicaux que vous avez prescrits soient remboursés par vos soins, oui, à la sécurité sociale. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement surpris. Vous aviez un patient cancéreux, vous avez prescrit un scan ou une IRM, je ne sais plus, et donc la sécurité sociale, sous prétexte que vous n'étiez pas vacciné, demande le remboursement de cet examen, sans remettre en cause d'ailleurs la nécessité de cet examen. On ne comprend pas le cheminement intellectuel.
Oui, ben écoute, écoutez, moi je verrai le 9 mars comment il y aura certainement des représentants. J'espère qu'ils auront le courage de venir faire face à cette confrontation. Et ils me réclament effectivement des actes pour lesquels moi je n'ai pas perçu le moindre centime d'euro. Hein, donc moi j'ai fourni mes avis d'imposition qui montrent bien qu'en 2022, j'ai dégagé 12 370 euros sur toute l'année, alors que j'ai travaillé 4 mois. Il faut savoir qu'un médecin comme moi, comme spécialiste, on prescrit des scanners, on prescrit effectivement des antibiotiques ou des appareils auditifs, comme dans ma spécialité. Et cet appareil, il vaut peut-être 2 000 3 000 euros, et il est remboursé 600 euros au patient par la Sécu. Mais je n'avais pas le droit de travailler ni de prescrire cet appareil auditif, donc c'est à moi à le rembourser. Donc vous imaginez que sur 7 mois, moi je prescris peut-être tous les jours 5, voire 8 scanners, voire plus, pour des patients. Ce sont des actes qui sont remboursés peut-être 100-150 euros. Mais donc ça, fois tous les jours, fois 7 mois, ben ça fait 250 000 euros à rembourser. En plus, la procureure réclame également une amende de 50 000 euros et un an de prison avec sursis. Voilà la situation d'un médecin qui, pour moi, n'a rempli que son devoir de protection de mes patients. Et je je vous le répète, je suis tout à fait confiant dans l'ordre des médecins, puisqu'on peut lire sur les murs j'embégaye un peu, mais donc j'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire sur les murs de la salle d'audience du Conseil de l'Ordre national des médecins. Et j'espère qu'ils s'inspireront de ces belles paroles pour se souvenir que j'étais exactement dans ce cas de conscience.
Eh bien, espérons effectivement que ce qui était écrit sur les murs sera gravé dans leur cœur au moment où ils rendront leur jugement. Merci beaucoup, docteur Michel Procureur, et forcément, nous vous réinterrogerons au moment où les sentences tomberont.
Voilà, merci de votre écoute.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Eh bien, merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés toute la matinale. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et pour nous aider à continuer à faire des matinales aussi excellentes, mais surtout toutes les émissions qui suivent, il faut soutenir RC.
Et pour soutenir RC, il faut aller sur soutenir.rc.fr, tout simplement soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne et nous permettre de rester indépendants et productifs. Merci d'avance.
Voilà, RC, c'est Radio Courtoisie. Et justement, qu'est-ce qui va se passer après ?
Eh bien, dans quelques instants, dans quelques secondes, le Florilège des Arts de Nicolas Stocker. À midi, le libre journal du théâtre de Jean-Luc Génère. 17h30, Restons Courtois, dirigé aujourd'hui par Marc Baudrier après la mort de Quentin. Mélenchon en meeting, prêche contre la violence et actualité nationale. 19h30, le libre journal de Lucien Rabouille. 21h30, le libre journal de l'Occident de Guillaume Antoine et François-Xavier Jiquel. Aujourd'hui, la société à travers l'objectif, puis Quentin, symbole d'une jeunesse. Enfin, à 23h, le chant grégorien avec Patrick Banken. Premier dimanche de carême aujourd'hui.
Et je ne vous dis pas à demain, mais à lundi, car demain, c'est samedi.
Eh bien, bon week-end à tous et à lundi.